14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
C'est difficile de pouvoir se justifier sur des choses qu'on n'a jamais faites ou qu'on ne peut pas faire. C'est compliqué, c'est très compliqué. Ça fait plus de 10 ans qu'on essaie de mener le combat. C'est difficile de prouver son innocence. C'est très difficile.
Bonjour. Le doute doit bénéficier aux accusés. C'est ce qu'on rappelle toujours aux jurés de cour d'assises. Ce fut le cas pour l'affaire Fabrice Da Silva et Michael Touraine, que je vous raconte aujourd'hui, mais très tard. Deux hommes qui n'ont pas tout de suite bénéficié du doute et ont été condamnés à tort. Il va falloir une dizaine d'années d'enquête et surtout de contre-enquête pour que ces deux accusés soient définitivement blanchis par la justice. 10 ans pour reconnaître leur innocence pour le meurtre d'un ancien dealer un soir de décembre 2010. Des accusations qui ne reposaient que sur des déductions, des hypothèses et des expertise génétique fragile. Condamné lors d'un premier procès à de lourdes peines de prison, Fabrice Da Silva et Michael Touraine ont été spectaculairement acquittés lors du deuxième procès qui s'est achevé le 26 janvier 2022. Il aura fallu pour cela, pour les deux amis et leurs avocats, un très long combat, démonter les rouages d'une affaire simple qui en fait en cachait bien d'autres, convaincre la cour et les jurés qu'ils couraient tout droit vers l'erreur judiciaire. C'est ce retournement de situation que nous allons explorer aujourd'hui avec nos invités et acteurs de ce dossier.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Fabrice Da Silva, Michael Touraine, le long combat de deux amis qui vont devoir démontrer leur innocence dans une affaire qui a tout l'air d'un règlement de compte à l'hiver 2010 dans la banlieue nord-est de Paris. Lundi 13 décembre 2010, juste avant minuit, le commissariat de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis est alerté par les pompiers de la découverte d'un homme baignant dans une mare de sang. Au numéro 18 et 20 de la rue Vauban, un lieu isolé, mal éclairé, aux abords d'un stade et de l'autoroute A4. La brigade criminelle est tout de suite alertée, la victime, 1m90, corpulence athlétique, basket et sweat à capuche, a reçu des coups à la tête, sans doute portés par une matraque ou une batte de baseball. Mais c'est une balle, une cartouche de calibre 12, une munition pour la chasse au gros gibier qui l'a tué. Le projectile a été tiré sous la clavicule droite. La voiture à côté de lui, une Peugeot 308, a les portières non verrouillées. Entre les sièges avant, les policiers trouvent un fusil à pompe au canon et à la crosse grossièrement sciée. C'est l'arme du crime. Elle a été laissée sur place par le ou les agresseurs. Il y a un peu de sang à l'arrière de la voiture. Dans le coffre, on retrouve un gourdin. Le permis de conduire de la victime indique qu'il s'agit d'un certain Bandjougou Diawara, 32 ans. Le ou les tueurs ne lui ont laissé aucune chance. Diawara a été attiré dans un guet-apens, dans un lieu qu'il connaissait à peine. Il a utilisé le GPS de sa voiture pour trouver sa route. Il a sans doute été tué dès son arrivée. Il n'a pas eu le temps de se défendre. C'est une exécution. Bandjougou Diawara, le plus souvent appelé Ben, est loin d'être un inconnu de la justice. Il est fiché pour une dizaine d'affaires, du trafic de stupéfiants entre 1992 et 2008, affaires qui lui ont valu 3 ans de prison. Il est également connu pour des faits de violence, de menaces de mort contre l'amant de son ex-compagne, ainsi que pour divers chèques impayés. L'enquête de personnalité révèle encore que Ben était un informateur officiel de l'Office central de lutte contre le trafic des stupéfiants. Il était inscrit au bureau central des sources depuis 2002. Ben avait permis de faire aboutir des enquêtes jusqu'à ce que le bruit court en 2008 qu'il était une balance. Les stupes avaient mis alors sa collaboration entre parenthèses. Il avait recommencé à renseigner la police en 2010, quelques mois seulement avant d'être abattu. Malgré ce profil d'indique propre à attirer une élimination violente, les enquêteurs ne croient pas à cette piste. Selon eux, les tueurs auraient été plus prudents, ils auraient emporté l'arme du crime. Les policiers sont beaucoup plus intéressés par la vie professionnelle de Diawara. Il était apporteur d'affaires, dénichait des biens à vendre ou à louer pour le compte d'un agent immobilier du coin, Fabrice Da Silva. Ce dernier est entendu. Il indique avoir d'excellentes relations avec Ben. Il a d'ailleurs vu le soir du crime, vers 22h30. Il est descendu pour le retrouver au bas de son immeuble afin qu'il lui remette les clés d'un appartement. Ben serait aussitôt reparti au volant de sa voiture. Questionné, Da Silva indique qu'il n'a jamais vu Ben avec une arme. L'agent immobilier dit qu'après cette rencontre, il est passé chez son meilleur ami et employé à l'agence, Michael Touraine, pour une histoire de chantier. Quelques mois vont s'écouler avant que l'arme du crime parle. pas d'empreinte détectable, mais deux ADN, celui de la victime, et un autre ADN mélange, dans lequel on retrouve la trace de Michael, le meilleur ami de Fabrice Da Silva. Et si les deux hommes avaient tué Ben, un an et demi après le meurtre, Da Silva et Touraine sont placés en garde à vue. Et on va voir dans le chapitre suivant ce que va donner cette garde à vue et les conséquences qu'elle va entraîner pour ces deux hommes qui ne vont cesser, et ce dès le début, de démentir toute participation dans ce crime. Pour l'instant, on en reste à cette scène de crime justement et à ce début d'affaire, à l'acte fondateur de cette affaire. Il y a déjà cette victime, Bandjougou Diawara, vu son profil ou tout au moins ses anciennes fréquentations, on peut penser... En règlement de compte, je vous pose la question à notre premier invité, Sylvien Cormier, avocat en appel de Fabrice Da Silva, avec maître Franck Berton, d'ailleurs, qu'on salue au passage. Maître Cormier, cette scène de crime, elle paraît presque banale et évidente dans ce coin retiré et obscur de la banlieue parisienne, on ne peut penser qu'à un règlement de compte.
Oui, d'autant qu'il y a des détails qui sont parlants, le fait notamment que les vêtements de la victime ne sont pas traversés par les balles devant. Elles sont traversées derrière, mais pas devant. Ça veut dire...
On lui a tiré dans le dos?
Alors, non, parce que le point d'entrée est devant. Donc, les experts, le médecin légiste et puis les experts qui sont intervenus disent qu'on a levé les vêtements. Il y avait trois couches, deux sweatshirts, un t-shirt, qu'on a levé ces couches de vêtements jusqu'à les couvrir le visage de la victime. Et on tire ensuite. C'est sans doute ça qui s'est passé. C'est quand même tout à fait révélateur d'un règlement de compte.
Et ça, c'est un mode opératoire, effectivement, de voyou, finalement. C'est un peu le mode opératoire qu'on emploie lorsqu'on donne une punition à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on lui masque le visage. Ça s'est déjà vu sur des scènes de crime.
Oui, absolument.
Maître Antoine V, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup, vous aussi, d'être dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de Michael Touraine, qui, là, va se retrouver impliqué à cause de cette empreinte génétique. On va en parler de cette fameuse empreinte génétique, parce qu'elle est la source de beaucoup, beaucoup de contradictions. On écoutait Maître Cormier à l'instant. On sait très vite et tout de suite que ce fameux Ben, la victime, c'est un indique de la police.
On le sait pas très vite, non, justement, parce que une des failles importantes du dossier, c'est d'avoir découvert cet élément. C'est quelques semaines après que la piste du fait qu'il était un indique est arrivée, mais surtout le commissaire qui a été entendu et qui aurait dû clarifier ce point et qui aurait dû donner tous les éléments permettant éventuellement de savoir si la victime avait un contentieux, ne l'a pas dit aux enquêteurs. Mmh. Et c'est ça qui commence, si vous voulez, à faire beaucoup, parce que, par exemple, je comprends très bien que vous imaginiez l'hypothèse d'un règlement de compte, mais cette hypothèse-là, elle est pas inscrite dans les pièces que vous retrouvez sur la scène de crime. L'endroit où les faits ont eu lieu, et aussi l'endroit de passage par lequel il pouvait tout simplement rentrer chez lui et tomber, alors soit dans un guet-apens, soit dans une dispute. L'arme du crime, elle est retrouvée, si c'est l'arme du crime d'ailleurs, et c'est ce dont nous avons débattu, parce qu'il y a quand même des incertitudes, elle est retrouvée dans la voiture. Le corps est retrouvé à l'extérieur de la voiture, et la douille qui correspondrait à la balle est retrouvée à 3 mètres de la voiture. Il y a plein d'éléments qui, si on les prend objectivement, et je crois que ce que la cour d'assises a fait en appel, ne permettent absolument pas de faire un scénario logique. Donc finalement, ce que je veux vous dire, c'est qu'à ce stade, personne, après deux procès en appel, 10 ans de procédure, ne saurait dire quel est le scénario le plus probable de la façon dans laquelle la victime a été tuée.
Le fait est, c'est que Ben, il s'est rendu à un rendez-vous, ça c'est
clair. On ne sait pas sur quelle base, il n'y a pas de téléphonie qui nous permette de savoir pourquoi il se retrouve là.
Il y a un peu de GPS quand même. On sait qu'il a utilisé pour aller à cette adresse, et qu'il a fait un demi-tour d'ailleurs quasiment dans cette rue à ce moment-là. Mais enfin bref, le fait est, c'est qu'il est tombé dans un traquenard de toute manière, puisqu'on lui a tiré dessus et on l'a tué. Sylvain Cormier, avocat de Fabrice Da Silva. Quels sont les rapports qui unissent les deux hommes entre Fabrice Da Silva et Michael Touraine?
C'est des rapports d'une amitié qui va au-delà d'une amitié. C'est-à-dire que Michael Touraine est un peu le mentor de Fabrice Da Silva sur l'immobilier. C'est lui qui lui a mis le pied à l'étrier, qui lui a appris un peu les secrets de cette activité, et les deux sont devenus amis avec le temps, sont passionnés par l'immobilier.
Ils travaillent ensemble, hein, c'est ça.
Ils travaillent ensemble, ils se quittent plus, ils se voient les dimanches, les lundis soirs, enfin, bon, ça prend une part dévorante de leur vie.
Maître Antoine V, ils connaissent tous les deux la victime ?
Non, la victime, justement, Monsieur Da Silva la connaît, il lui arrive de la fréquenter, j'ai compris ça des débats, mais en ce qui concerne Michael Touraine, qui est quand même renvoyé devant la cour d'assises comme auteur d'un assassinat, il ne l'a jamais vu, il l'a vu une fois, mais sans le connaître, en fait, de par Monsieur Da Silva. Ils sont allés une fois débrancher une batterie de jet ski dans un domicile qui se trouvait être celui de la victime, mais enfin, ils n'ont jamais eu d'échange, ils n'ont jamais eu de contact, et donc, même si en droit français ce n'est pas exigé pour démontrer un crime, il n'y a absolument aucun mobile pour Touraine d'aller tuer ce monsieur qu'il ne connaît pas, avec lequel il n'a jamais eu de contact, d'incident, de problématique. Donc c'est vrai que c'était un des éléments qui aurait dû alerter, on va dire, la succession de juges qui se sont penchés sur ce dossier. On n'arrivait pas à établir un lien et surtout une raison. Alors on a inventé, je pense que vous allez en parler, l'idée qu'il y aurait peut-être une dette d'argent ou des difficultés financières. Et je crois qu'un des éléments qui a été largement compris, cette fois-ci, par les juges d'appel, c'est que ça aussi, c'était une invention des enquêteurs, en tout cas de ceux qui ont voulu raconter l'histoire.
Alors, invention, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a effectivement cette histoire d'argent. On va en parler dans l'heure du crime qui va surgir. Et puis on va voir que finalement, personne n'a beaucoup besoin d'argent dans cette histoire et qu'on se demande pourquoi ils auraient essayé de récupérer une dette qui apparemment est fictive. Maître Sylvain Cormier, votre client, Fabrice Da Silva, lui, il est quand même la dernière personne à avoir vu vivant, il y en a sans doute d'autres, mais à avoir vu vivant la victime, Ben. Il le voit au bas de son immeuble, il le dit tout de suite d'ailleurs.
Il le dit tout de suite, mais je suis assez d'accord avec ce que je viens d'entendre de la part de mon ami Antoine Vey, c'est-à-dire que on a inventé, il a fallu faire tenir quelque chose. Michael Touraine n'a aucun lien avec la victime. Plutôt que d'en tirer les conséquences logiques, de dire bon, c'est une fausse piste, les enquêteurs sont allés élaborer un scénario selon lequel forcément Fabrice Da Silva, qui lui connaissait la victime, devenait un donneur d'ordre et Michael Touraine un exécutant. Mais ce qui ne colle pas, c'est ce que vous avez rappelé. Pourquoi Fabrice Da Silva aurait lui-même dit, à la première fois qu'on lui pose la question, qu'il est le dernier à avoir vu Ben.
Les deux amis de l'agence immobilière intéressent au plus haut point les enquêteurs. Ils doutent de leurs déclarations respectives. Et les deux hommes vont passer de l'état de témoin à celui de suspect. Ce 22 mai 2012, Fabrice Da Silva et Michael Touraine sont interpellés et placés séparément en garde à vue. Touraine est questionné sur la trace ADN retrouvée sur le fusil à canoncier qui a servi à abattre Ben, trace qui a été découverte sur la queue de détente de l'arme, de quoi faire de lui un potentiel tireur. Touraine nie avoir tiré ou avoir même touché l'arme, mais il reconnaît avoir vu le fusil Mossberg chez son ami Da Silva. Selon son témoignage, Da Silva cachait cette arme chez lui. Interrogé à son tour, l'agent immobilier nie tout différent avec la victime et surtout réaffirme qu'il n'a jamais conservé le fameux fusil chez lui. Il conteste les déclarations de Michael en fin de garde à vue. Il revient sur ses propos. Il n'a pas dit la vérité. La victime, Ben, lui a bien confié, courant 2010, un sac très lourd dans lequel il a découvert, à sa grande surprise, deux pistolets et un fusil à pompe. Fabrice Da Silva dément les avoir utilisés. Tout au contraire, il a demandé à Ben de récupérer au plus vite son sac. Ce dernier serait venu chercher les armes 2 mois plus tard. Les enquêteurs s'interrogent sur ce mensonge, tout comme ils se posent des questions sur la téléphonie. Les portables des deux hommes, principalement celui de Da Silva, aurait borné pas très loin de la scène de crime. Après 48 heures de garde à vue, les deux amis sont mis en examen pour assassinat et écroués. Da Silva et Touraine nient les faits qui leur sont reprochés, mais le juge d'instruction n'a aucune intention de les remettre en liberté, malgré le combat mené par leurs avocats de l'époque, respectivement maître Sylvie Novakovic et Dupont Moretti. Combat qui ne fait que commencer. L'épouse de Fabrice Da Silva, en première ligne pour défendre l'innocence de son mari, fait appel au service de l'enquêteur privé et criminaliste Roger Marc Moreau. Celui-ci va relever ce qui pourrait être les premières anomalies de procédure. Il est d'abord intrigué par un rapport balistique qui indique que le fusil retrouvé dans la voiture ne comporte aucun résidu de tir, pas de traces de poudre. Selon les experts, ce cas de figure est des plus incongrus. Un dépôt de poudre grise devrait normalement se trouver dans le canon. La contre-enquête s'intéresse aussi à la téléphonie. Elle soulève le fait que le téléphone de Da Silva a borné dans la zone du crime, mais c'est une zone qui est également celle dans laquelle habite son copain Michael, avec qui il était en contact le soir du meurtre. Des experts en recherche génétique sont également approchés. Ces derniers n'excluent pas que l'ADN de Michael Touraine, retrouvé sur la détente, soit un simple ADN de contact. La quantité est tellement infime qu'elle ne correspond pas à une pression franche et constante nécessaire pour tuer Ben. Qui plus est, un autre ADN inconnu a été retrouvé sur la détente. Et il figure aussi sur une paire de gants chirurgicaux retrouvés dans une poubelle proche de la scène de crime. Cette trace dans le dossier ne semble pas avoir fait l'objet d'une quelconque recherche. Face à toutes ces questions, le dossier apparaît fragile. Les deux suspects sont d'ailleurs remis en liberté 15 mois après leur incarcération. Ils seront renvoyés aux assises seulement 4 ans plus tard, avec, croit-on, toutes les chances d'être acquittés. Et on va voir effectivement dans le chapitre suivant que la justice ne va pas beaucoup s'embarrasser dans un premier temps des doutes qui fourmillent dans ce dossier. Maître Sylvain Cormier, avocat de Fabrice Da Silva, avec maître Franck Berton. Pourquoi Da Silva a-t-il menti sur ce fameux fusil? Parce que ça lui coûte cher.
Ça lui coûte très cher. Je crois que c'est un réflexe assez logique en fait. Il a une arme qu'il accepte de garder, celle de son ami Ben, qui est cross-sciée, canon-sciée. C'est une arme qui a servi à faire des mauvais coups. Et son ami lui avait dit que dans le passé, il en avait fait. Il a voulu s'éloigner d'ennuis potentiels bien prévisibles, en fait.
Maladroitement.
Mais très maladroitement, bien sûr.
Oui, parce que là, il est coincé. Là, oui. Les policiers, ils font pas de cadeaux, là.
Non.
Vous mentez une fois, vous mentez toujours.
Oui, et si vous avez menti là-dessus, c'est que vous êtes le coupable. Franck Berton a une phrase très juste pour ça. Il dit « Une erreur judiciaire, elle commence avec une mauvaise enquête que les juges veulent à tout prix tenir à flot. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les enquêteurs ne cherchent pas à savoir et à creuser les pistes qui pourraient être celles de règlement de compte liés à l'activité d'indic de Ben. Ils cherchent pas. Il y a des différends personnels violents qui ont eu lieu une semaine après. On prend pas l'ADN du suspect qui est concerné. Enfin bref, il y a une accumulation de négligence. Cette enquête va se borner à demander aux membres de la famille « Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous avez appris? C'est quoi la rumeur ?» Et au final, on tombe sur... les deux pauvres types de l'agence Century 21, Michael Touraine et Fabrice Da Silva.
Mais avouez qu'une erreur judiciaire peut aussi commencer par un mauvais mensonge.
Bien sûr, c'est un cocktail.
On peut le voir un petit peu aussi, je mets du côté des enquêteurs, peuvent aussi se poser des questions sur un type qui ment face à eux, ils peuvent se poser des questions.
Alors attention, une précision importante, ce mensonge dure quelques heures.
Oui,
attention, c'est
bien
pas...
Sûr. Mais il va être exploité.
Mais il va être surexploité.
C'est le moins qu'on puisse dire. Maître Antoine V, avocat de Michael Touraine. Alors, il y a l'ADN de Michael Touraine sur la queue de détente de l'arme, c'est-à-dire qu'on peut dire, c'est lui qui a appuyé sur la détente. Il nie l'avoir touché. Qu'est-ce qu'il dit, cet ADN?
Non, d'abord, comme Fabrice Da Silva, il est mis dans une garde à vue qui est, et d'ailleurs, l'enquêteur, d'une manière assez déstabilisante, l'a redit en appel, qui est fait pour lui mettre de la pression, qui est fait pour le piéger, qui est fait pour lui faire avouer les faits qu'il n'a pas commis. Mmh. Et donc, en fait, c'est là où l'erreur judiciaire, elle débute, c'est-à-dire quand on ne regarde plus des gens dans le cadre d'une possible présomption d'innocence, quand on essaye d'en faire des criminels. Et donc, ce qu'il cherchait, très simplement, c'est lui foutre une pression la plus maximale possible pour aller jusqu'à des aveux. Mmh. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on met, par exemple, sa compagne en garde à vue en même temps, alors que sa compagne n'a aucune forme d'implication. C'est-à-dire, juridiquement, c'est très contestable. Mais on veut, dans cette affaire, les plier, en fait. Mmh. Et donc, faut savoir que quand une personne qui est innocente se retrouve en garde à vue, c'est elle qui va se défendre le plus mal. Un innocent par rapport à un coupable, il ne sait pas quand est-ce qu'on lui les fait, il ne sait pas expliquer pourquoi il était là, il ne se souvient pas de la soirée qu'il a passée un an plus tôt, et il ne sait pas expliquer pourquoi il y a son ADN.
Ce que vous décrivez, Maître V, là, c'est ce qu'on peut appeler l'effet tunnel, c'est-à-dire que les enquêteurs, ils ont un objectif, ce sont ces deux hommes,
et
ils ne regardent pas ailleurs. Est-ce que ce n'est pas un peu caricatural?
Non, mais c'est très contestable qu'au XXIe siècle, on continue à conduire des enquêtes comme ça.
Et celle-ci, d'après vous, elle a été conduite comme ça?
Absolument. Et en plus, elle est encore plus, j'ai envie de dire, critiquable, parce qu'il y a de la manipulation dans l'air. Quand, par exemple, on dit que sa téléphonie, on va peut-être y venir, elle borne, en fait, on constitue une fausse téléphonie pour faire tenir un dossier qui, à l'origine, si on le regarde objectivement, ne tient pas. Et je reviens juste sur cet ADN. La cour d'assises d'appel, et ça veut dire des juges avec du recul, ont vu que c'est pas du tout évident que ça soit son ADN à lui. C'est très technique, l'ADN.
C'est mélangé.
C'est mélangé. Ouais. On sait pas si c'est probablement un ADN de transport. les gens savent pas ce que c'est. Et donc la grosse erreur du juge d'instruction de base, d'ailleurs la première expertise retrouve pas d'ADN, c'est une deuxième expertise, c'est d'avoir pris et d'avoir véhiculé le bruit on retrouve l'ADN de Touraine. En fait, on retrouve pas l'ADN de Touraine, on retrouve des éléments qui donne une probabilité d'ailleurs assez faible que ça puisse être son ADN. Ça change quand même radicalement la façon dont on présente le dossier. Juste vos auditeurs, ils entendent qu'il y a l'ADN, donc ils pensent que c'est lui, sauf qu'il faut leur redire qu'il n'y a pas l'ADN. Il y a une probabilité que ça soit le sien, mais la probabilité que ça soit pas le sien est plus forte.
Et on l'a bien compris. On a en ligne Roger Marc Moreau, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, criminaliste. Donc, je vous ai cité dans ce récit de l'heure du crime parce que c'est vous qui va aller mettre en évidence ces incongruités, on peut les appeler comme ça, qui surgissent dans cette enquête. Il y a quelque chose de troublant, c'est l'histoire de l'arme. Je voudrais que vous nous disiez un mot là-dessus, sur ce fusil qui n'a pas de traces de poudre. C'est pour le moins troublant.
Eh bien, écoutez, lorsque je vais étudier le dossier à l'origine, eh bien, je vais tomber sur la première expertise balistique. Et je vais découvrir avec stupéfaction que le magistrat instructeur avait demandé la datation de la dernière utilisation de l'arme. Que va répondre l'expert? Il répond: un écouvillonnage du canon du fusil de scellé fusil Mossberg a été effectué. Il n'a pas permis la mise en évidence de traces de résidus de tir consécutives à l'utilisation de l'arme.
Mais ça veut dire quoi ça, Roger Marc Moreau? Ça veut dire que cette arme, elle n'a pas tiré ce soir-là?
Ça veut dire que très vraisemblablement, cette arme n'a pas tiré.
Mais alors, ça veut dire que l'expertise balistique, elle est complètement bancale, puisqu'on retrouve quand même un projectile.
On retrouve un projectile, mais il faut savoir qu'il faisait partie d'un gang avec lequel il faisait des séquestrations, il faisait du trafic de drogue. Il s'était fait tous arrêter d'ailleurs à plusieurs reprises, et notamment parce qu'il a dénoncé ses propres complices qui ont tous été en prison. Or, tous les membres de ce gang qui touche Trappe, mais aussi Mantes-la-Jolie, eh bien, étaient armés avec le même type d'arme.
Les suspects vont comparaître libres devant la cour d'assises. Leur dossier est loin d'être accablant. Tout au contraire, il abonde de failles et le mobile n'est pas établi. La confiance semble régner. 30 novembre 2018, les agents immobiliers Fabrice Da Silva et Michael Touraine sont face aux juges et jurés de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à Bobigny. Ils comparaissent libres. Da Silva est considéré comme le commanditaire. Touraine est présenté comme un complice. Le dossier d'accusation est fragilisé par des expertises balistiques et ADN peu convaincantes. Les spécialistes ont du mal à accorder leur violon. La défense fait feu de tout bois. Plus de 50 témoins sont appelés à la barre. La qualité d'anciens trafiquants des stupes et d'indicateurs de police de la victime est au centre des débats. Diawara aurait été une balance que plusieurs trafiquants de Trappe voulaient voir tomber. Ces dealers qui lui en voulaient ont été identifiés, mais curieusement jamais auditionnés. Embarras de l'officier de l'office des stupes, appelé à témoigner. Un autre enquêteur va laisser entendre que l'indic avait peut-être été repéré dans un restaurant en compagnie d'un policier. L'acquittement se dessine, mais l'avocat général, lui, ne doute pas. Il a sans doute senti que les jurés étaient un peu perdus dans ce flot d'expertise et contre-expertise. Le magistrat demande entre 18 et 20 ans de détention contre les accusés. Ce sera 22 ans pour Da Silva, 18 ans pour Touraine. Les deux hommes repartent en prison. Fabrice Da Silva dira avoir ressenti le sol se dérober sous ses pieds.
Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut ressentir quand on est condamné à tort comme ça et que c'est injuste. C'est injuste d'être condamné comme ça. Et de pas pouvoir se défendre surtout. C'est ça qui fait mal. C'est d'essayer de se défendre et de pas y arriver. Mais là, c'est dur et ça fait peur. Ça fait vraiment peur.
Condamnation lourde, mais en demi-teinte. La justice serait-elle fourvoyée? Les condamnés sont libérés après seulement 8 mois de prison. Pour leurs avocats, tout est à refaire pour le procès en appel. J'ai envie de vous poser une question, Maître Antoine V. Vous n'êtes pas à ce procès, vous allez intervenir, je crois, au procès d'appel. Mais question toute simple, pourquoi est-ce qu'ils sont condamnés?
Parce que la justice se trompe, parce que la justice est quelque chose d'humain, très aléatoire, et qui dépend beaucoup quand même aux assises des magistrats professionnels et de leur façon de conduire les débats. Je crois que les débats de première instance étaient un peu hystérisés. Il y avait beaucoup de médias, ce qui facilite pas en fait le fait que ça soit serein. Il y avait beaucoup d'éléments techniques que, comme vous l'avez dit, les jurés n'ont probablement pas bien saisi, parce que le débat devant les assises n'était pas un débat contradictoire et apaisé, probablement. Et donc, ça pointe en fait la responsabilité des juges dans la capacité à conduire les choses de manière claire, contradictoire, objective. Pourquoi une décision de justice ne va pas dans le bon sens, c'est toujours une question et qui recommence sans cesse, parce que il se trouve que là c'est dans ce sens-là, à savoir que en appel l'innocence a été établie, mais il y a plein de dossiers dans lesquels ça se passe dans l'autre sens. Ça devrait interroger le citoyen. C'est pour ça qu'on pourrait espérer que les sessions d'assises, par exemple, soient mieux connues, peut-être filmées, parce que les gens se rendraient compte des aberrations, parfois, qui ont lieu devant une cour d'assises.
Et pourquoi pas, effectivement, que ces audiences soient filmées, c'est une perspective qui est intéressante et qui a déjà fait l'objet de beaucoup de débats. Maître Cormier, avocat de Fabrice Da Silva, là, vous allez reprendre, vous, le dossier, avec Maître V pour les deux parties. Il faut tout refaire, là, il faut tout rebâtir, non ?
Il faut tout rebâtir, et je crois que la première question qui se pose à nous, la plus évidente, c'est cette histoire d'ADN. On ne comprenait pas ce tour de magie, parce que le fusil avait été expertisé, un laboratoire avait été diligenté pour faire des analyses, et il ne trouve que l'ADN de la victime sur la queue de détente en mélange avec deux autres ADN inconnus. On a comparé avec les 27 prélèvements de ce dossier, dont Fabrice Da Silva et Michael Touraine, ils n'y sont pas. Arrive un nouvel expert, un an et demi plus tard, soi-disant avec une nouvelle méthode, mais qu'il n'a pas utilisée, mais c'est ce qui est vendu à la justice, et lui dit « c'est Michael Touraine ». Et quand on creuse, on s'aperçoit qu'il utilise des conclusions qui sont très trompeuses. Il écrit « l'empreinte génétique de Michael Touraine est retrouvée », et en fait, c'est pas ça du tout, c'est ce que vous a expliqué Antoine Vey. C'est une probabilité, un calcul, et en fait, ce calcul est très défavorable à l'hypothèse que ce soit Michael Touraine. Il y a plus de chances que ce soit pas lui que ce soit lui, pour être clair.
Roger Marc Moreau, il y a beaucoup d'éléments qui ont été repris à ce premier procès, même s'ils ne portent pas leurs fruits, mais que vous avez posés sur la table, j'ai envie de dire.
Oui, mais malheureusement, au premier procès, on ne va pas être entendu. Il y avait un climat délétère, comme l'a rappelé Maître V, et il y avait même un problème de conflit d'intérêts avec l'un des avocats, Maître Dupont-Moretti, qui avait eu un procès. Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'un long débat entre eux, de longues disputes avec cette présidente. Et je crois que ça a beaucoup joué dans la manière de mener, de conduire les débats.
C'est ce que dit Maître V, d'ailleurs, que le climat n'était pas très apaisé, et qu'effectivement, Maître V, c'est
non,
ça.
Non, mais je défends quand même Maître Dupont-Moretti, parce que quand on parle de conflit d'intérêts, c'est compliqué, mais il n'y avait pas de conflit d'intérêts du tout au niveau du précédent avocat.
Pas lui.
Il y a eu un conflit entre un avocat qui voulait défendre son client et une magistrate qui était peut-être submergée par effectivement la façon de défendre, et ça n'a pas été positif pour le client. Mais il n'y a pas de conflit d'intérêts, il y a juste eu une impossibilité pour la défense de dialoguer constructivement avec cette juridiction-là. Et d'ailleurs, quand on a pu le faire, le résultat a été bien différent.
Les deux accusés du meurtre de Diawara savent qu'ils jouent leur avenir et sans doute leur vie lors du procès en appel. L'accusation va-t-elle cette fois changer de cap ? 18 janvier 2022, cour d'assises du Val-de-Marne à Créteil. Fabrice Da Silva et Michael Touraine retrouvent juges et jurés. Les avocats des deux hommes qui comparaissent libres sont bien décidés à démontrer que la procédure est bâtie sur du sable. Pas de preuves, annonce Maître V, avocat de Michael Touraine. Rien n'est fiable, renchérit Maître Franck Berton, l'un des défenseurs de Fabrice Da Silva. Les fragilités mises en avant lors du premier procès sont à nouveau sur la table. Les expertises contestées point par point après 8 jours de procès. L'avocat général qui porte l'accusation surprend tout le monde lors de ses réquisitions. Jean-Christophe Cros s'adresse aux jurés en leur demandant de faire bénéficier les accusés du doute. On a beau avoir nos convictions sur la culpabilité, indique le magistrat. Lorsqu'il y a un doute, c'est un algorithme implacable. Toute la zone grise, vous la mettez en faveur de l'accusé. 26 janvier, Fabrice Da Silva et Michael Touraine sont acquittés. La cour d'assises explique n'avoir pas été convaincue de leur culpabilité. Elle reprend à son compte toutes les questions soulevées par la défense, notamment les expertises balistiques et l'ADN. Les deux hommes éclatent en sanglots. Leurs avocats annoncent la fin de 10 ans de calvaire judiciaire. Les parties civiles ont-elles la cruelle impression de ne pas avoir pu obtenir la vérité? Les parties civiles ont le sentiment d'avoir été totalement abandonnées par le parquet qui n'a pas du tout soutenu l'accusation. Cela questionne, indique alors maître Isabelle Fellenbock, avocate de l'épouse de Bandjougou Diawara. Maître V, en quelques mots, c'est rare ici même d'avoir une telle prise de position de l'avocat général, de l'accusation.
Bah oui, mais c'est parce que c'est un dossier qui ne tient pas. Et ce qui est plus étonnant par contre, c'est que tout le monde s'étonne du fait que quand un magistrat reconnaît en fait que les éléments ne tiennent pas, il en tire les conséquences. C'est-à-dire que dans les assises, il y a une logique institutionnelle comme un jeu de rôle qui voudrait qu'on s'attende à ce que l'accusation accuse et que la défense défende. Et moi, je suis assez hostile à ça, parce que l'avocat général est le représentant des intérêts de la société. Et donc oui, c'est vrai, ça fait du bien à la justice, d'avoir quelqu'un qui vient rappeler une évidence. Quand le doute existe, il faut qu'il profite à l'accusé.
Avec des mots très forts.
Des mots très forts, une démonstration intellectuelle très étayée. Mais j'ai envie de dire, c'est la logique normale de l'audience. Parfois, on a le sentiment qu'on se retrouve dans un jeu de rôle dans lequel l'avocat général n'y croit pas vraiment, mais il le fait parce qu'institutionnellement, il faut le faire. Donc on a eu de la chance dans ce dossier, j'ai envie de dire, de tomber sur un magistrat qui avait l'honnêteté intellectuelle de reconnaître l'évidence.
Maître Sylvain Cormier, avocat de Fabrice Da Silva, avec maître Franck Berton, vous êtes à ce procès. Votre client, il y croyait ou il n'y croyait plus?
Ah, je crois qu'il était extrêmement angoissé. Ça s'était tellement mal passé au premier procès.
Alors qu'on pensait qu'il allait être acquitté.
Oui, c'est ce qu'il pouvait se dire à l'époque. Non, on a vraiment défendu quelqu'un qui était surangoissé à l'idée de ce procès. Et il faut un courage, c'est difficile à mesurer, mais il faut un courage certain pour, dans ces conditions, revenir libre, volontairement à la cour et affronter la justice.
Aux deux procès, il faut le souligner, ils ont comparu libre, hein, ce qui est aussi très étonnant pour des faits qualifiés de meurtre. C'est assez rare.
C'est rarissime, et je crois que c'est l'expression du doute que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris avait compris que ce dossier posait d'énormes questions.
Roger-Marc Moreau, criminaliste. En général, la justice française, elle n'aime pas beaucoup les experts extérieurs, les criminalistes, les gens qui vont fouiller un petit peu, faire des contre-enquêtes. Ça existe beaucoup aux États-Unis, mais pas en France. C'est pas dans nos mentalités. Là, c'est une victoire presque pour le job que vous avez mené.
Oui, bien sûr. C'est une grande victoire parce que c'est un dossier qui, bien évidemment, nous tenait tous très à cœur. Quand j'ai connu Da Silva et sa compagne, d'abord il était lui en prison, on va obtenir très rapidement sa libération à la suite de l'analyse du dossier. Et c'est vrai que la chambre de l'instruction va reconnaître l'existence d'un doute. Et là, Da Silva et sa compagne vont rester plusieurs années en attente du procès et ils vont construire une famille. Ils vont avoir 3 enfants, 2 petites filles et un petit garçon, tous adorables. Et on ne pouvait pas imaginer qu'on le condamne et que cette famille se trouve détruite.
Maître Antoine V, on écoute ce que dit Roger-Marc Moreau et c'est important parce que il y a énormément de temps qui s'est passé, qui s'est écoulé. Il va falloir 10 ans pour que effectivement Fabrice Da Silva et Michael Touraine retrouvent une vie entre guillemets normale.
Oui, 10 ans et 2 périodes d'incarcération, donc des mois et des mois de prison pour rien. Et c'est vrai que la justice en France est lente parce que les expertises prennent du temps à faire. Et vous savez, par exemple, le procès a mis en avant quelque chose de dramatique. Quand on est arrivé dans la démonstration ADN, un des experts a dit, vous voyez, en fait, on prend un écouvillon et on peut très bien déplacer de l'ADN parce qu'on prend le même écouvillon pour faire plusieurs prélèvements. Et on lui a dit, mais pourquoi vous prenez le même écouvillon? Parce que ça a quand même des conséquences énormes. Eh ben, c'est parce que pour des raisons budgétaires, on nous dit qu'il vaut mieux pas dépenser 3 écouvillons pour faire les prélèvements.
Vous certifiez que ça a été dit à l'audience.
Ah oui, je suis pas là pour vous raconter des histoires.
Non, mais je vous le répète.
Et donc,
parce
en fait, ils nous annoncent seulement dit que, en fait, la justice française était à ce point incapable de fournir des écouvillons, mais plus encore qu'il y avait un risque, quand on le faisait, de déplacer l'ADN. Et donc, quand vous dites vous retrouvez l'ADN à un endroit, s'il a été déplacé par l'expertise, la première, qui a utilisé qu'un seul écouvillon pour le... Ça a des conséquences majeures sur le débat. Donc oui, la justice est une institution un peu délabrée, dans laquelle les juges n'ont pas le temps de juger, dans laquelle les experts prennent un temps incommensurable pour faire leurs expertises, et tout ça a des conséquences, parce que même si aujourd'hui ils ont été acquittés, pendant 10 ans ils se sont arrêtés de vivre. Alors certes ils ont eu des enfants, certes ils ont essayé de vivre quand bien mal, mais c'est le sort de tous les justiciables, que ce soit un divorce, que ce soit une garde d'enfants ou que ce soit un crime. Aujourd'hui on a une justice qui ne fonctionne qu'au ralenti.
Malgré ce verdict, le meurtre de Bandjougou Diawara reste donc inexpliqué. On ne connaît pas aujourd'hui encore l'identité de l'homme qui a appuyé sur la détente. Fabrice Da Silva et Michael Touraine ont été innocentés. Ils n'ont aujourd'hui plus aucun compte à rendre à la justice pour le meurtre de Bandjougou Diawara, alias Ben, un homme qu'ils n'ont pas tué. Impossible de savoir si l'enquête va redémarrer. 11 ans après les faits, la famille ne sait pas qui est l'assassin et vivra perpétuellement avec cette souffrance. Regrettée après le verdict, leur avocate, maître Margot Groubier. Celle-ci espère que l'instruction reprendra afin que le ou les coupables soient identifiés lors du procès en appel. L'avocat général avait esquissé d'autres pistes possibles, notamment celle de l'exécution-punition d'un homme qui était un indique, une taupe au service de la police. Les deux ex-accusés vont pouvoir, eux, poursuivre leurs existences respectives, retrouver ou pas leur vie d'avant, un espoir et des perspectives qui, pendant 10 ans, leur ont été confisquées. Maître Sylvain Cormier, vous avez défendu Fabrice Da Silva avec maître Franck Berton dans ce dernier procès. Je voudrais que vous disiez un mot sur les parties civiles, parce qu'effectivement c'est important. Elles sont perdues, ces parties civiles. Pendant 10 ans, elles aussi ont attendu une réponse.
Bien sûr, parce qu'en fait elles ont été induites en erreur pendant 10 ans, et ce que le système leur a présenté comme une vérité, ils ont fini par y croire. Mais je crois que ce délibéré est fondamental, parce que cet acquittement, c'est la première marche pour que cette famille puisse accéder à la vérité et trouver les vrais coupables. Je ne vois pas ce qu'ils auraient à gagner à ce que 2 innocents soient condamnés. Enfin, ça serait sordide. Donc, je pense que cet acquittement, pour moi, n'est pas une interrogation perpétuelle, comme l'a dit leur avocat. Je pense que c'est la première marche vers la vérité. On a notamment, dans les débats, eu des discussions très précises et fait des reproches à l'officier traitant de Ben. Comment se fait-il qu'il n'ait pas listé les dossiers sur lesquels il avait travaillé ? Comment se fait-il ?
C'est le minimum.
C'est le minimum. Comment se fait-il qu'il n'ait pas donné les noms des gens qui avaient été concernés par les renseignements ? Ça fait des pistes. Et tout cela est acté, est enregistré en procédure, et je pense que la famille de la victime, la famille Diawara, a des bases pour déposer une plainte et avancer.
Encore faudrait-il, Maître V, avocat vous de Michael Touraine, encore faudrait-il que l'enquête continue. Et on sait que dès lors qu'il y a un acquittement, hélas, c'est pas toujours le cas.
Non, il faut des éléments nouveaux, mais bon, ça, je veux dire, c'est vrai que au regard de ce qui a été discuté aux assises, on voit qu'on est passé à côté de l'objectif. Il y a des pistes existantes qui n'ont jamais été creusées. D'ailleurs, c'était quelque chose qui était très critiquable dans le jugement de premier degré, parce qu'il disait dans la feuille de motivation, il n'y a pas d'autre auteur possible. Alors déjà,
premier procès,
mais ça montre un petit peu comme la justice est passée à côté, parce que des auteurs possibles, il y en a tout le temps, on ne les a peut-être pas identifiés.
Et il y en a beaucoup effectivement dans ce dossier.
Et donc en fait, si vous voulez, la justice dans ce dossier, juste ce qu'on appelle, a fonctionné avec vraiment un bandeau sur les yeux. Quand on écrit, il n'y a pas d'autres auteurs possibles. Ça veut dire qu'on refuse tout simplement d'accepter l'hypothèse qu'il y en ait d'autres. Et non seulement on refuse d'hypothèse, mais en plus on n'est pas allé les chercher. Donc effectivement, en termes, on va dire, de vérité judiciaire, on est face à un dossier qui est très problématique, notamment pour les victimes, parce que s'ils se rendaient compte de la façon dont les choses ont été faites, je crois qu'ils auraient matière à actionner soit la volonté de réouvrir une enquête, soit la mise en cause des responsabilités qui ont conduit à ce fiasco.
Roger Marc Moreau, un mot là-dessus, très court, mais il y a des éléments pour faire repartir cette enquête.
Oui. Les stupes n'ont pas révélé les pistes qu'ils connaissaient, en fait. Parce que il y avait à l'époque, il faut savoir que ces services étaient empêtrés dans un scandale judiciaire le patron des stupes, ainsi que l'officier traitant de Ben, étaient dans une affaire qui avait été surnommée l'affaire Myrmidon et Air Cocaïne. Et par conséquent, ils étaient mis en cause. Moi, quand j'avais rencontré la première fois le commissaire divisionnaire, il m'a dit « je me prépare surtout pour aller me faire juger moi-même en correctionnel ».
Oui, donc c'était pas vraiment l'envie de faire avancer cette enquête, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
Il y avait des pistes qui, s'ils avaient été exploitées, auraient pu peut-être faire des révélations qui auraient été défavorables pour leur service parce que ça touchait leurs indices.
Et ça peut expliquer aussi pourquoi il y a eu ce silence, en tout cas cette chape de silence sur ces questions. Maître Cormier, c'est un gâchis, cette histoire. Vous parliez des parties civiles qui ne connaissent pas la vérité, et puis il y a deux hommes qui pendant 10 ans ont attendu qu'on dise la vérité.
Oui, c'est un terrible gâchis. Tout le monde va mettre longtemps à s'en remettre. Mais encore une fois, peut-être que je suis un éternel optimiste, mais rappelons-nous l'affaire Diels. L'acquittement de Diels permet plus tard de trouver l'auteur, Francis Holmes.
Et d'avancer.
Alors c'est très long, la justice est pénale est très longue à reconnaître ses erreurs. Mais là, cette étape est franchie et je pense que ce dossier n'est pas mort.
Maître V, je vais terminer cette émission avec vous. La justice est revenue sur ses certitudes. C'est une leçon qu'il faut retenir, c'est ça la leçon de cette histoire.
Oui, mais vous savez,
même si elle coûte cher aux intéressés.
Oui, Kafka, il disait, il y a quelque chose de pire que de contredire la justice, c'est de bouleverser ses habitudes. Et c'est vraiment le problème de notre institution judiciaire. C'est qu'il y a des habitudes qui sont prises, depuis des millénaires, j'ai envie de dire. Et qu'il est très difficile de provoquer un électrochoc. Est-ce qu'un dossier, même quand on établit l'innocence de quelqu'un, peut provoquer cet électrochoc? On peut en douter. Mais en tout cas, tous les gens qui ont écouté votre émission savent qu'il faut toujours prendre beaucoup de précautions dans la façon dont on doit juger une personne, que ce soit le tribunal médiatique, c'est-à-dire qu'il faut avaloir son sens critique, mais aussi la vraie justice, parce que la justice peut se tromper. En tout cas, c'est très clairement ce qu'a dit la Cour d'appel. La justice s'est trompée à plusieurs endroits dans ce dossier. Et aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une victoire pour les deux innocentés. En fait, ça a été une épreuve dont ils auront beaucoup de mal à se relever. Et c'est pour ça que la justice est violente et difficile.
Un grand merci maître Antoine V et maître Sylvain Cormier ainsi que Roger Marc Moreau d'avoir aujourd'hui été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.